Je vous invite à ouvrir vos Bibles, sans plus tarder, dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Hébreux 6, à partir du verset 1. Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. On le relit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Nous avons ouvert la parole dans cet endroit où il nous est parlé dans ces deux versets de fondement. Et je crois qu'il est bien régulièrement de retourner au fondement. Qu'est-ce que vous en pensez ? De retourner au fondement, pourquoi ? Eh bien parce que c'est bon de se rappeler soi-même les fondements pour être sûr qu'on est bien établi sur la parole de Dieu, sur la saine doctrine, mais aussi parce que parmi nous, semaine après semaine, réunion après réunion, il y a des personnes toutes nouvelles qui arrivent et qui viennent. Et pour chacun, pour aller au pas du troupeau, il est important régulièrement de revenir aux fondamentaux, de revenir à la base de la parole de Dieu. Et Paul va dire quand même des choses impressionnantes. Je ne sais pas si pour vous c'est le fondement, mais pour lui ça l'est. Alors qu'est-ce qu'il dit ? 6 choses. Le renoncement aux œuvres mortes, soit. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je crois que si nous étions bien calés au moins sur ces 6 sujets, eh bien ça serait déjà bien, déjà pas mal. Monsieur Olé, il y a quelque temps, nous avait fait toute une étude sur ces sujets. J'ai pensé à l'un d'entre eux dernièrement, c'était il y a quelques jours pour préparer cet après-midi. Et puis, je pense qu'il est important de s'arrêter sur un d'entre eux, la doctrine des baptêmes. Est-ce que vous êtes étonné de voir qu'il a dit des baptêmes et pas du baptême ? Des baptêmes. Vous aviez déjà remarqué qu'il était écrit des baptêmes ? Bon, par ceux qui étaient avec Monsieur Olé, mais sinon, des baptêmes. Question. Quels baptêmes sont décrits dans la parole de Dieu pour les chrétiens ? Baptême dans le Saint-Esprit ? Baptême dans l'eau ? Pardon ? Le baptême de Jean-Baptiste, mais nous, ça ne nous concerne plus, on va le voir. Quoi d'autre ? C'est tout ? Baptême en Christ ou en sa mort ? Quoi d'autre ? Il y a le baptême de feu, alors c'est soit comme certains disent c'est le baptême dans le Saint-Esprit, d'autres disent eh bien c'est le jugement de Dieu. Peu importe, si c'est comme le Saint-Esprit, eh bien alors voilà, c'est le même. Et il y a aussi un baptême de souffrance. Jésus parle, on va le voir, d'un baptême de souffrance. Et les 4 baptêmes, baptême dans le Saint-Esprit, baptême dans l'eau, baptême en Christ et baptême de souffrance, les 4 sont des baptêmes auxquels il faut s'attendre, auxquels par lesquels nous devrons passer. Je vous étonne peut-être, mais on va le voir ensemble. Premièrement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire que le mot baptême ? Qu'est-ce que c'est que le baptême ? Qui peut me dire ? Immersion, immerger. Voilà, plonger, pour ceux qui sont tout simples comme moi, plonger. Plonger, être plongé dans quelque chose. Qui sait en grec quel mot est utilisé pour parler, qui est traduit par le mot baptême dans la Bible ? Baptizo. Baptisma, il y a bapto, mais qui n'est pas utilisé dans le sens, qui n'est pas traduit par baptiser, mais tremper. Bapto, c'est pas le bateau, hein. Bapto, c'est traduit par tremper. C'est le bout de pain que Jésus trempe. C'est le mot bapto. Et pour plonger, sinon, pour vraiment plonger, immerger, c'est baptizo, baptisma. Ce sont ces mots. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pourquoi je donne cette signification ? Parce que souvent on dit baptiser d'eau. On ne peut pas dire plonger d'eau. On dit plonger dans l'eau. C'est pour ça que vous m'entendrez toujours dire baptiser dans l'eau. ou à la baptiser dans le Saint-Esprit. On ne peut pas être plongé du Saint-Esprit. On est plongé dans le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Baptiser, ça veut dire plonger. Ça fait aussi penser à certaines doctrines qui croient qu'on peut être baptisé par aspersion. C'est pas possible. Je ne peux pas être plongé par aspersion. Vous comprenez? L'enseignement biblique, c'est d'être plongé dans l'eau, plongé dans le Saint-Esprit, plongé en Christ, plongé dans la souffrance. Quoi? Dieu est capable de nous plonger un peu dans la souffrance? Eh bien, on va le voir. Mais est-ce que les épreuves ne sont pas permises de Dieu? Ce matin encore, une prophétie nous était donnée de la part du Seigneur pour nous rappeler que normalement la parole à elle seule nous enseigne, mais quelquefois Dieu est obligé, puisque nous laissons quelques petites choses de la parole, petites des fois grandes, hein, nous avons tendance à trier les choses de la parole, le Seigneur, pour nous enseigner, il est obligé de passer et de permettre des épreuves. Baptême de souffrance, on va le voir. Baptême dans l'eau. Prenez avec moi Actes, chapitre 8, verset 36. Actes 8, 36. Je n'ai pas abandonné l'idée, l'instruction qu'on avait décidé avec M. Gault de reprendre ses enseignements du matin, mais comme je voulais vraiment le faire bien, après avoir vraiment médité les textes, j'ai pensé aussi que il me fallait chercher la pensée de Dieu pour cet après-midi, et c'est ce qui est venu à mon cœur ces jours-ci, et encore plus ce matin, bien sûr, ça a été confirmé. Actes chapitre 8, verset 36. Vous connaissez l'histoire de Philippe et du ministre éthiopien, cet homme qui était là dans son char, qui lisait le livre d'Ésaïe, qui ne comprenait rien, et d'un coup, le Saint-Esprit va dire à Philippe, alors qu'il est en pleine campagne d'évangélisation, qu'il y a des miracles, qu'il y a des gens qui se font baptiser, le Saint-Esprit le dépêche pour aller dans un lieu désert, sur un chemin, là où il y a un char, un ministre éthiopien, un étranger, qui se pose des questions sur ce qu'il lit, et Dieu va dire par le Saint-Esprit à Philippe, va là-bas et tu vas parler. Et quand il se retrouve là, il explique le livre d'Ésaïe à cet Éthiopien. Ce ministre reçoit la parole de Dieu et il nous est dit verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. On voit là, c'est un des multiples exemples où dans la parole de Dieu, il nous est parlé du baptême dans l'eau. Ils sont descendus dans l'eau et Philippe a baptisé l'eunuque. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit qu'on a vu tout à l'heure, dans Marc chapitre 1 verset 8, prenez-le avec moi, on fait quelques lectures. Pardonnez-moi, je vous fais chercher, c'est pour vous entraîner. Hein. Marc chapitre 1 verset 8, c'est Jean qui parle. Et qui dit, moi, je vous ai baptisé dans l'eau, hein, je dis dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. De qui parlait-il? De Jésus. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Le baptême en sa mort, le baptême en Christ. Romains, chapitre 6 et verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On est baptisé en Jésus-Christ, on est baptisé en sa mort. On fait un avec Jésus et on croit au message de Jésus-Christ qui est mort à cause de nos péchés, pour l'expiation de nos péchés. Le baptême de souffrance, Marc encore, chapitre 10, verset 38. Le contexte, c'est les deux disciples qui demandent à Jésus d'être l'un à droite, l'un à gauche. Jésus leur répondit, verset 38, « Vous ne savez ce que vous demandez ?» Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Voilà. Être baptisé du même baptême que Jésus a été baptisé, non pas le baptême qu'il avait déjà pris, mais celui qui l'allait prendre, souffrir, donner sa vie pour nous, jusqu'à même la mort. Lui, c'est aller jusqu'à la mort, et certains disciples, bien sûr, qu'ils soient allés jusqu'à la mort aussi. Le baptême de souffrance. Je vous lis un autre texte, ne le cherchez pas, dans Luc chapitre 12, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Et 1 Pierre chapitre 4, verset 1, je vous le lis. 1 Pierre 4, 1, il nous est dit de nous armer d'une pensée. Laquelle ? Celle de souffrir. Pourtant, je croyais que l'évangile, c'était des vacances, non ? Aucun souci, un tapis rouge, plus de problème, c'est pas ça ? Ah. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Je croyais que c'était une bonne nouvelle, l'évangile, mais ça l'est. Puisqu'après un petit peu de souffrance, sur la terre, le Seigneur nous dit que là-haut, il y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de pleurs, plus de cauchemars, plus tout ce que vous voulez, plus de factures, plus rien. Plus d'examens à passer, pour les jeunes, plus d'opérations, etc., etc. Hein ? Plus de disputes. Et ça sera très bien. Armez-vous de la pensée de souffrir. Est-ce que quelquefois on se fait pas moquer, comme il a été dit tout à l'heure, parce que nous on va à l'église, parce que nous on ne ment pas, parce que nous on ne dit pas de gros mots. Tiens, est-ce qu'un chrétien il dit des gros mots ? Ben non. Il peut pas sortir de la même bouche des louanges et puis quelque chose d'immonde, quoi. Quelque chose qui déplaît à Dieu, qui attriste Dieu. Il faut que d'une bouche, il sort toujours des choses qui plaisent à Dieu. Et les gros mots, ça ne plaît pas à Dieu. Il y a un texte qui le dit clairement. Je ne veux pas parler de ça cet après-midi. Le baptême dans l'eau. Je vais en revenir là parce qu'il y a deux semaines. Deux semaines. Ça passe vite. Deux semaines, il y a des personnes, quatre personnes, qui se sont engagées par les eaux du baptême, qui ont pris, qui ont fait ce service, qui se sont donnés au Seigneur, qui se sont engagés avec Dieu publiquement par les eaux du baptême. Les eaux du baptême. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, on le voit aux instructions au baptême, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est le baptême dans l'eau. Et on croit toutes sortes de choses sur le baptême dans l'eau, alors que la parole de Dieu nous donne un enseignement suffisamment clair. Ce que le baptême n'est pas. Vous êtes toujours dans 1 Pierre ? Vous ne l'avez pas loin, reprenez-le sinon. 1 Pierre, chapitre 3 et verset 21. Il nous est parlé des eaux du déluge, à l'époque de Noé. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce que le baptême n'est pas, on s'arrête là. Il n'est pas la purification des souillures du corps. Saviez-vous que je ne suis pas sauvé par le baptême ? Certains disent, bien sûr Jérémie. Mais combien de gens sont surpris ? Quand on demande aux personnes qui disent « Je viens aux instructions au baptême, je veux me faire baptiser. » Oui, pourquoi vous voulez vous faire baptiser ? Pour être sauvé. Eh oui, mais on n'est pas sauvé parce qu'on se fait baptiser. Et peut-être certains le savent, d'autres ne le savent pas. Vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous sentir ridicule parce que vous ne le saviez pas. C'est notre rôle de vous le dire, et c'est mon rôle cet après-midi, je vous le dis. On n'est pas sauvé par le baptême. Ce qui ôte le péché de nos cœurs, de nos vies, ce qui lave nos consciences, ce n'est pas le baptême dans l'eau. Et ce n'est pas lorsque je me fais baptiser que je suis sauvé. Ce n'est pas par un bain dans l'eau que mes péchés sont ôtés. Certaines personnes attendent de savoir, ils se disent « je serai sauvé quand je serai baptisé ». Mais ce n'est pas du tout ça. On se fait baptiser alors qu'on est déjà sauvé. On va le voir. Certaines personnes s'attendent à ce que le jour du baptême, toute leur vie change. Transformation incroyable. Et chaque millimètre de leur corps qui est baigné dans l'eau, ils sont là, ils disent « ça y est, ça vient, hop, 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 hop ». Et puis une fois qu'ils sont dedans, oh, et ils attendent le moment où ils vont sortir, au moment où ils sortent, ça y est, et ils s'attendent, et c'est l'euphorie, un peu la joie pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et puis très vite, ils réalisent qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait. Juste, ils ont obéi à Dieu. Et il y a une joie à obéir à Dieu, bien sûr, mais ça ne nous rend pas plus capables, le fait de s'être fait baptiser. Ça ne nous rend pas plus saints, ça ne nous rend pas plus purs. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, on l'a lu, et c'est plus clair que ça, il n'y a pas. Le baptême ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve alors ? La grâce de Dieu nous sauve. L'œuvre de Dieu au travers de Jésus, son Fils, sur la croix nous sauve. Et c'est par grâce, par le moyen de notre foi que nous sommes sauvés. Comment être sauvés ? bien il faut avoir la foi dans l'œuvre de Jésus sur le bois de la croix et tout ce qu'il a fait durant toute sa vie, dans la parole, à sa parole, la parole de Dieu. Comment être sauvé? En croyant que Jésus est mort pour mes péchés, personnellement. Pas pour les péchés des autres, c'est facile de regarder aux autres. Mais je suis sauvé une fois que je me reconnais moi-même pécheur, que je réalise que je ne peux pas me sauver par moi-même, je ne mérite pas le ciel et je ne pourrai jamais le mériter. Qu'importe mes bonnes œuvres, ça ôtera pas mes tâches. Il faut que je sois lavé, non pas par l'eau du baptême, mais par le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Ce sang si précieux dont nous parle Pierre dans son épître, il dit, voilà, nous ne sommes pas sauvés par de l'or, de l'argent, etc., mais par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Ce sang qui est la preuve que Jésus est mort. Ce sang que Jésus a présenté à son Père dans le ciel, qu'il a répandu sur l'autel pour dire, voilà, quelqu'un a payé pour les péchés du monde, c'est moi. Et il n'y avait que moi qui pouvais le faire, puisqu'il n'y avait que moi qui était pur, pourrait dire Jésus. Et il n'y avait que lui qui était sans péché. Et pour laver les péchés de quelqu'un, il faut que quelqu'un d'innocent paye. Et le seul innocent sur la terre qui ait vécu, c'est Jésus. Pour la vie d'un homme, il fallait un homme. Et la vie des animaux qui étaient tués, qui étaient offerts en sacrifice, n'était que symbolique et ne représentait que la mort efficace de Jésus sur la croix. Jésus qui s'est fait homme, lui qui était Dieu et qui s'est dépouillé de sa gloire. Le baptême ne nous sauve pas. Ce qu'il est, on continue notre lecture. Donc je reprends, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et maintenant qui vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et Dieu maintenant nous sauve à cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Le baptême dans l'eau ne nous sauve pas parce que nous ne sommes pas lavés de nos souillures, mais représente un engagement volontaire envers Dieu. Et j'en viendrai à vous poser une question. Est-ce qu'un bébé peut s'engager à quoi que ce soit? Je ne critique aucune religion, aucune dénomination, j'ai autre chose à faire. Mais je veux poser vraiment les fondements, dire la vérité. Est-ce qu'un bébé peut s'engager? Non. Je ne sais pas moi. Si moi j'allais vers mon fils, Esaïe ou même Élie, qui a quand même 2 ans et demi, presque 3, je lui dis, est-ce que tu t'engages pour la vie à obéir à ton papa? Il va me regarder, oui. Parce que quand je suis content de lui, je lui offre une récompense. Non, je voulais. Mais, oui, il dit oui à tout ce qu'on dit, il comprend pas. Il comprend pas. Il comprend très très peu de choses. Si, il comprend certaines choses. Gâteau, il comprend. Bonbon, il comprend. Biberon, il comprend. Mais il comprend pas. Est-ce que je peux demander à un enfant, même s'il comprenait mes paroles, à 3-4 ans, est-ce que tu t'engages pour la vie à ceci, cela? C'est insensé. C'est pas possible. Donc je ne peux pas baptiser devant Dieu un enfant. Un enfant, un bébé ne peut pas se faire baptiser en prenant un engagement envers Dieu parce qu'il a une bonne conscience. S'engager. Un engagement d'une bonne conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que je m'engage parce que ma conscience a été purifiée par Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça veut dire que dans ma conscience, je sais que je suis pécheur, je ne me voile pas la face, je n'oublie pas mes péchés, je ne deviens pas amnésique, mais je sais que tous mes péchés sont pardonnés parce que Jésus en a payé le prix sur le bois de la croix. Du coup, ma conscience est purifiée. Je n'ai plus honte pour m'approcher de Dieu, je n'ai plus de crainte à avoir en m'approchant de Dieu parce que je sais que je suis en règle avec Dieu. C'est bien la preuve que je ne me fais pas baptiser pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Je m'approche de Dieu, je me fais baptiser dans l'eau parce que je sais que Jésus a déjà payé pour mes péchés, que Dieu m'a déjà lavé de tout péché à cause du sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. J'ai une bonne conscience devant Dieu. Question, avez-vous une bonne conscience devant Dieu? C'est important. Avant de continuer plus loin, je me dois à chacun d'entre nous, moi aussi, nous poser la question, est-ce que ma conscience est pure devant Dieu? Ou est-ce qu'en ce moment, quelque chose me travaille parce que je sais que ça n'est pas en règle avec Dieu? Si quelqu'un se sentait culpabilisé, avait une culpabilité sur son cœur, dans sa conscience, cet après-midi, pardon, si quelqu'un avait cela, il peut faire la paix avec Dieu, simplement disant, j'accepte le pardon de mes péchés, j'accepte que Jésus soit mort pour moi, sur le bois de la croix, que c'est pour moi qu'il est mort, et je demande pardon pour mes péchés, et je refuse de retourner à mes péchés. Je prends l'engagement de m'éloigner, de me séparer de mon péché, de ma misère, de ma salissure. Ce matin, je venais au culte, je me suis levé un peu plus tôt ce matin, et puis j'avais vraiment passé du temps devant Dieu, et pour la Sainte-Seine, j'avais prévu un texte, quelque chose, etc., de bien élaboré, et puis sur la route, pendant que je conduisais, j'étais visité de Dieu. C'est possible ça? Pendant qu'on conduit, d'être dans la présence de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit. Qu'on soit dans la voiture, qu'on soit à genoux dans une église, qu'on soit à genoux devant notre lit, qu'on soit debout n'importe où, on peut être en communion avec le Seigneur. Et vraiment, j'ai été touché, j'ai été visité. Et je me suis dit, voilà, Jérémie, sans Dieu, t'es rien. Mais je le disais avec joie. Je n'étais pas peiné d'être rien. Parce que je savais qu'à cause de Dieu et de Jésus, j'étais devenu enfant de Dieu, et que j'étais devenu sauvé, et que le ciel m'attendait. Le ciel était en train d'être préparé pour que je puisse y aller plus tard. Pas parce que je le mérite, je ne suis rien, mais parce que Jésus a payé pour mes péchés, pour mes forfaits. Et ça, c'est excusez-moi l'expression, mais c'est génial. Et oui, mais c'est beau de savoir qu'on ne mérite rien, mais pourtant que tout nous est donné, par grâce, parce qu'on y croit, tout simplement. C'est ce que Jésus va dire, soyez comme des enfants. Comme des enfants. Est-ce qu'on a le courage? Est-ce qu'on relève ce défi de dire « Ouh, j'arrête de raisonner et je fais confiance simplement à ce que la parole de Dieu dit. » Et je lui fais confiance aussi pour m'expliquer des choses spirituelles que ma chair, que mon intelligence humaine ne peut pas comprendre et qu'il me révélera en son temps. L'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que j'ai une conscience pure devant Dieu? Si ce n'était pas le cas, eh bien faites la paix avec Dieu cet après-midi. Et quand notre conscience est purifiée, quand on sait qu'on est pardonné, quand on sait qu'on est au clair avec Dieu, qu'on n'a plus rien à se reprocher puisque tout est réglé, tout est confessé, tout est avoué, tout est, est mis de côté dans ma vie, je renonce à toutes ces choses, alors Dieu me demande quelque chose. Dans Marc, c'est au chapitre 16, verset 16, j'anticipe un peu sur mes notes là. Il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une des choses que Dieu nous demande, au travers de sa parole, que Jésus a dite, c'est qu'il nous faut croire, et une fois qu'on croit, une fois qu'on a fait la paix, une fois qu'on a confessé, il nous faut nous baptiser, il nous faut nous engager. Je ferai une petite parenthèse avec le baptême de Jean. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à comprendre la différence entre le baptême de Jean et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême de Jean, il nous est dit encore dans Marc chapitre 1, on va le lire, tiens. Marc chapitre 1, vous allez le préparer. Le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance pour préparer la venue de Jésus, pour préparer les cœurs à la venue du Messie, du Sauveur lui-même. Et c'était un baptême qui était donné par le Saint-Esprit, qui était ordonné par le Saint-Esprit à Jean, mais qui n'était que temporaire. Marc, chapitre 1, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Parce que pour être pardonné, il faut se repentir. C'est-à-dire qu'il faut demander pardon et rejeter le péché, abandonner notre vaine manière de vivre. Et j'ai noté en rouge dans mes notes, pour la rémission des péchés. Il fallait, à ce moment-là, pendant cette période-là, il fallait dire oui, moi, je veux me faire baptiser pour le pardon de mes péchés. Et ce baptême représentait ma demande de pardon, représentait ma confession, oui, je suis pécheur, je suis perdu sans le secours de Dieu et sans le pardon de Dieu, je me sais pécheur, je demande pardon pour mes péchés et maintenant, je vais changer de vie. Et beaucoup, beaucoup de personnes allaient à ce baptême-là. Il y a le baptême de Jean pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés. Mais dites-moi, Jésus, lui qui s'est fait baptiser aussi par Jean, est-ce qu'il s'est fait baptiser pour le pardon de ses péchés? Donc à partir du baptême de Jésus, Il y a un nouveau baptême. Jésus a inauguré un nouveau baptême. Non plus un baptême pour être pardonné de ses péchés, pour être lavé de ses souillures, mais un baptême d'engagement, un baptême de consécration. Jésus, à partir de son baptême, s'est mis à rentrer dans son ministère, ce qu'on appelle son ministère, c'est-à-dire son service. Aujourd'hui, les ministres, c'est les gens haut placés qu'on ne peut pas toucher, à qui on ne peut rien reprocher. Mais dans la parole de Dieu, un ministre, c'est quelqu'un qui est serviteur des autres. Et le vrai sens du mot, c'est cela, être serviteur, être même esclave des autres. Serviteur. Et Jésus, à partir de son moment de son baptême, il a vraiment été consacré. Il a même été oint, baptisé dans le Saint-Esprit à ce moment-là. Il a été rempli, équipé, oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir des boiteux, des malades, etc. Jésus a été oint, a été équipé. Mais ça a commencé à son baptême. Un baptême d'engagement, un engagement public, quelque chose de public. Jésus l'a fait. Et il a dit, il faut que je le fasse. Pourtant, Jean lui dit, mais non! C'est pas à moi de te baptiser, c'est toi plutôt qui devrais me baptiser. Et Jésus lui a dit, il faut qu'on fasse ce qui est juste. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on se fasse baptiser. Peut-être quelqu'un dit, non, moi le baptême, ça ne me sert à rien. J'obéis à Dieu, je fais tout. Mais Dieu veut qu'on commence par s'engager avec lui publiquement. C'est-à-dire qu'on dise au monde, moi je ne fais plus partie du camp de l'ennemi, du camp des perdus, du camp de ceux qui méprisent Dieu ou qui rejettent Dieu. Qui rejette Jésus-Christ en tout cas, je fais partie du camp de ceux qui croient en Jésus et qui veulent lui obéir, qui veulent marcher dans ses voies, qui se mettent à part pour lui, qui se consacrent à Dieu et à Jésus-Christ. La différence entre le baptême de Jean, pardon, pour le pardon des péchés, et le baptême de Jésus, non pas pour être pardonné de nos péchés, mais comme signe d'engagement, de consécration. Et ça confirme alors la parole qui est dit que Jésus a été le premier en tout. Il était le premier à être baptisé de cette manière-là, puisqu'il est le premier, de toute façon, à n'avoir aucun péché, à se faire pardonner. Peut-être quelqu'un me dira « objection ». Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu un film? Quelqu'un se lève pendant un jugement et dit « objection, votre honneur ». Peut-être quelqu'un ne me dira pas « votre honneur », mais « objection » quand même. Dans Acte 2, chapitre 38, prenez-le avec moi, je veux éclaircir ce point. Acte 2, 38. Après le baptême de Jésus, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 38, il est quand même dit quelque chose, Jérémie. Lisez-le avec moi. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous, parce qu'ils entendent la parole, l'évangile prêché, Jésus est le Messie, etc. Mais que faut-il que l'on fasse? Pierre leur répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Vous avez quoi? Pour le pardon de vos péchés. Vous avez vu, moi j'ai une version plus spirituelle. J'ai une version peut-être plus près du sens véritable, à cause du pardon de vos péchés. Quelqu'un m'a dit, j'ai pour le pardon de mon péché. Quelqu'un, s'il lit la parole, il dit, moi je suis honnête, je crois la parole, il est dit, faites-vous baptiser, hein, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quelqu'un peut être recherché pour meurtre. Vous avez déjà vu ça, hein, recherché pour meurtre, etc. Est-ce que ça veut dire parce qu'on veut le tuer? Est-ce que ça veut dire parce qu'il va tuer? Ou est-ce que ça veut dire qu'on le recherche parce qu'il l'a tué dans le passé? Pour le meurtre qu'il a déjà commis. Et c'est le même sens qui est utilisé ici. Je vous le relis. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour, dans le sens, parce que vous avez été pardonnés de vos péchés. Quand on découvre l'amour de Dieu, quand on entend pour la première fois que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, que lui qui était innocent, il a été cloué sur le bois de la croix, il a souffert, on s'est moqué de lui, on l'a frappé, on lui a craché dessus, on lui a donné des gifles, des soufflets, etc., etc. Tout ça à cause de moi, pour me sauver à moi, on est frappé par l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils pour faire cela. L'amour de Jésus qui s'est donné lui-même, puisqu'il le dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne pour vous. Et on croit, On croit que Jésus est mort pour nous, on accepte, etc. Et certains en restent là. Jésus est mon sauveur, alléluia, tout va bien. Mais le Seigneur, il dit, je veux que tu ailles plus loin. Jésus dit, je veux être ton sauveur, mais je veux aussi être ton Seigneur, c'est-à-dire ton maître. Je veux prendre les rênes de ta vie, parce que de toi-même, tu ne pourras pas aller au bon endroit, tu ne pourras pas faire les meilleurs choix. Mais moi qui sais tout, je pourrais te guider au meilleur endroit, je pourrais guider ta vie, même t'utiliser pour le salut d'autres personnes, pour toutes sortes de bonnes œuvres. Le Seigneur a des plans pour nous et il veut qu'on s'engage avec lui. Pour preuve que le baptême de Jean était éphémère, je vous lirai un autre texte, c'est dans Actes 19, au verset 1. Paul arrive à Éphèse, et il est dit ceci. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Amen. Vous avez vu, ils étaient déjà baptisés du baptême de Jean. Et Paul a dit, voilà, il faut actualiser un peu votre enseignement. Et il leur explique, Jean, il a dit des vérités qui concernaient celui qui devait arriver après lui, le Messie, Jésus. Et sur ces paroles, sûrement qu'il a précisé des choses sur Jésus, il a raconté ou il a rappelé à leur mémoire que Jésus était mort à la croix, etc., qu'il avait donné son corps, qu'il avait offert sa vie pour nous sauver. Et ces personnes se sont engagées alors par le baptême en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le baptême peut être comparé, une des plus belles images, c'est à un mariage. Le baptême dans l'eau, l'engagement avec Jésus-Christ, avec Dieu, c'est vraiment une image qu'on peut comparer au mariage. Tout à l'heure, j'ai parlé du mot baptizo, baptisma, même racine, qui veut dire plonger. Et ce terme nous parle d'un plongeon qui demeure, d'un plongeon qui reste, qui se perpétue. Et c'est en différence avec ce mot bapto, bapto, qui parlait de tremper, un peu comme Jésus a trempé le pain dans le potage. Et il y a un homme, Nicandère, qui a écrit un livre en 200 après Jésus-Christ, ou avant Jésus-Christ, pardon. Il a écrit un livre, il y a eu des copies, on en a les copies aujourd'hui. Et cet homme parlait de cuisine. Vous aimez parler de cuisine ? Bon, c'est pas le sujet, hein. Il parlait d'une recette pour faire des conserves au vinaigre. Qui sait faire des conserves au vinaigre ? Je sais pas. Bref. Dans son livre, c'était quand même un physicien et un poète, il utilise les deux mots. Le mot bapto, qui est utilisé comme Jésus trempe le bout de pain, et le mot baptizo, qui nous parle du baptême. Et il explique que pour faire des conserves au vinaigre, il faut prendre de légumes, il faut d'abord le plonger bapto dans l'eau bouillante, puis ensuite l'immerger dans le vinaigre et fermer la boîte. Vous comprenez la différence ? Bapto, c'est juste un plongeon éphémère, je plonge juste pour saisir le légume, etc., je le sors de l'eau bouillante. C'est pour un temps, c'est quelque chose d'éphémère. Par contre, le mot baptizo, le baptême, le mot qui est utilisé pour la suite, c'est je le mets dans le vinaigre et là il y reste, et il peut rester des années dans la boîte de conserve sans se périmer. Et ça nous parle un peu de l'image du baptême qu'on doit prendre. Beaucoup de personnes disent « Oh, je me fais baptiser, je verrai bien plus tard. De toute façon, ça coûte rien, on ne sait jamais. Je me fais baptiser au cas où, quand dans le ciel, on me posera la question « Est-ce que tu es baptisé ?» Je pourrais répondre « Oui, j'ai coché la case des choses que j'avais à faire dans ma vie. » On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Par grâce, par le moyen de la foi. Et le baptême que Dieu nous demande de prendre, c'est un engagement pour la vie. Un engagement pour toujours, un engagement qui va durer jusque dans l'éternité, qui va avoir un impact jusque dans la vie éternelle, la vie après la mort aussi, mais qui peut commencer aujourd'hui. Pourquoi je compare ça avec un mariage ? Parce que quand on se fait baptiser, on aime déjà le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez ? On l'aime parce qu'il a donné sa vie pour nous. On l'aime parce qu'il nous a pardonné de nos péchés. Peut-être qu'on l'aime parce qu'il nous a guéri nos corps qui étaient malades. On l'aime peut-être parce qu'il nous a consolés d'une épreuve qu'on a traversée, de quelque chose qu'on a vécu. On l'aime parce qu'il est présent au milieu de nous, avec nous, tous les jours de notre vie. On l'aime parce qu'il ne cherche pas à nous faire membre d'une église. On l'aime parce qu'il veut une intimité avec nous. Et le mariage, dans la Bible, c'est quelque chose de très très sérieux. C'est quelque chose qui ne doit pas être violé, qui ne doit pas être rompu. C'est comme un contrat. Un mariage, c'est quelque chose de tellement sérieux que même Dieu va dire que le mariage soit honoré de tous. De tous. Le mariage, un engagement. Comme le baptême, qui est un engagement. Le mariage, qui est aussi un renoncement. Comme le mariage. J'ai dit quoi ? Le baptême peut être un renoncement, comme le mariage est aussi en soi un renoncement. Je choisis une femme et je renonce à toutes les autres. Est-ce que c'est pas ça aussi le mariage ? Sans jeu de mots, avec vérité, est-ce que quand je me marie, je ne renonce pas à toutes les autres de milliards de femmes qui sont sur la terre ? Eh oui, c'est ça. Devant Dieu, c'est ça un mariage. C'est important. Et dans la Bible, pour qu'il y ait vraiment mariage approuvé de Dieu, il faut deux choses. Il faut une cérémonie en public. On ne fait pas ça en secret. Dans la Bible, il n'y a aucun mariage qui se fait en secret, qui soit approuvé de Dieu. Et il y a l'intimité, la relation intime. Deux ingrédients, deux choses qui sont indispensables pour un mariage approuvé de Dieu. Et pour le baptême, pour qu'un baptême soit vraiment approuvé de Dieu, il faut une cérémonie publique. Il faut qu'on confesse publiquement le nom de Jésus. Je choisis devant tous, devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, devant les démons et le diable, que je veux suivre, je fais le choix de suivre le Seigneur Jésus et son enseignement dans la parole de Dieu. C'est un engagement sérieux, comme un mariage, une cérémonie publique. Et ça implique aussi, et ça ne peut pas être autrement pour être approuvé de Dieu, une intimité, une relation intime avec le Seigneur Jésus. Et combien d'entre nous, moi le premier, nous avons parfois négligé l'intimité qu'on doit avoir avec Dieu et avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a toujours soif de rester dans la présence, de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher une intimité avec lui, de chercher à comprendre sa parole? On a chanté un chant ou entendu un chant qui nous parlait de méditer la parole, de fouiller dans la parole, d'aimer la parole. Est-ce qu'on a toujours cette soif d'avoir une intimité avec Dieu? Parce que quand j'ouvre le Saint-Livre, c'est le cœur de Dieu que j'ouvre. C'est la personne de Dieu que je découvre. C'est Jésus qui se révèle à moi. Peut-être ça fait peur à certains, parce qu'ils se sentent si sales, si séparés de Dieu. Ils disent, mais je ne peux pas lire ce livre. Ça fait peur. Parce qu'on réalise que c'est sérieux, c'est un livre sérieux. Parce que Dieu se révèle à nous. Et c'est vrai, ce livre est appelé aussi comme un miroir. Il est appelé un miroir et quand on l'ouvre, on voit la sainteté de Dieu et du coup, ça fait vraiment contraste avec notre misère, notre péché. Et on n'a pas d'autre choix, si on veut continuer à méditer ce livre, que de confesser ses péchés à Dieu et de demander le pardon à Dieu au travers de l'œuvre de Jésus sur le bois de la croix. De la même manière qu'il faut une alliance lorsqu'on se marie, pour montrer qu'on est bien marié, pour que ça se voit, il faut un baptême, il faut quelque chose de public, quelque chose de visible. Et le baptême, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce jour-là même qu'on s'engage avec Dieu. J'espère qu'on s'est engagé bien avant, qu'on a bien compris que l'engagement ne commence pas que le jour du baptême. Mais par contre, le jour du baptême, c'est public. Comme dans un mariage, c'est pas le jour du mariage qu'on s'engage avec la personne. On s'est engagé avant, seulement là on le fait publiquement, devant tous. Et on fait une cérémonie pour fêter ça, parce que c'est une belle chose que de s'engager avec quelqu'un que l'on aime pour la vie, pour fonder un foyer, pour avoir des enfants, etc. Il y en a qui veulent avoir des enfants qui ne sont pas encore mariés. Je vois les visages. Vous ne les voyez pas tous, moi je les vois. Et les sourires. Mais c'est beau ça. Et le Seigneur, comprenez qu'il doit être bien triste quand quelqu'un dit « Oui, j'ai une intimité avec Dieu, mais je ne veux pas me faire baptiser avec lui. » Je ne veux pas me faire baptiser. Comme Dieu doit être bien, bien triste quand deux personnes ont une relation intime, mais qui ne veulent pas se marier et s'engager publiquement. Le mariage, c'est divin et ça doit être respecté. Il y a une certaine intimité. Avant, on se comprend, on se parle, on aime marcher au bord de la mer, au bord du canal pour Toulousains, quand on est fiancé. Mais quand on est engagé véritablement publiquement, ça change quand même quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit ça changeait rien. Niveau émotion, peut-être que ça change pas grand-chose. Mais je crois que ça, le Seigneur, il approuve ça. Et je veux pas culpabiliser ceux qui sont pas baptisés, au contraire. Je veux leur parler de quelque chose de beau, une vie avec le Seigneur. Une vie d'obéissance, tout simplement. Le baptême, c'est aussi une obéissance envers Dieu. Et le Seigneur Jésus nous en a montré un bel exemple. Celui qui croira et qui sera baptisé, je l'ai lu, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je terminerai avec ça. Le baptême, c'est une réponse. Le baptême, c'est une réponse. Il y a une question en suspens de la part de Jésus. Dans Jean 21, chapitre 21, verset 15, je vous le lis. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Vous pouvez vous demander le rapport un petit peu qu'il y a avec le baptême. Je crois qu'il y a une question que Dieu pose encore, que Jésus pose à chacun d'entre nous. Il pourrait dire, « Claude, m'aimes-tu » Il pourrait dire, « Michael, m'aimes-tu » etc. Faire chacun d'entre nous. La question est posée, « M'aimes-tu ? » On sait qu'il l'a posé trois fois parce que Pierre l'avait renié trois fois. Et Jésus mettait le doigt là où ça faisait mal. Là où Pierre aurait pu culpabiliser pour le restant de ses jours, Jésus a voulu briser la glace et dire, « On va régler ça maintenant. On ne continue pas sans avoir réglé ça. » Une fois que la douleur était passée, une fois que le doigt était posé, il lui a donné un ordre de mission. « Paie mes brebis, serre-moi, serre-moi, si tu m'aimes, alors serre-moi, serre-moi. T'inquiète pas, tous tes péchés, c'est réglé, mais engage-toi, serre-moi, mets-toi à mon service. Si tu m'aimes, véritablement Pierre, serre-moi. » Et le Seigneur pourrait dire, « Mais si tu m'aimes, mon frère, ma sœur, si tu m'aimes, mon enfant, si toi qui as découvert mon amour à la croix, tu m'aimes en retour, alors engage-toi avec moi. » Serre-moi. Et le premier service qu'on peut donner à Dieu, c'est de s'engager par les eaux du baptême. Je crois que dire, non, moi je veux bien faire chanter, moi je veux bien devenir pasteur, moi je veux bien répondre à l'appel de Dieu pour un service ou un autre, mais je veux pas me faire baptiser, c'est un non-sens. Ça peut pas aller ensemble. On peut pas s'engager à servir Dieu sans s'être engagé par les eaux du baptême. C'est pourquoi, dans cette assemblée en tout cas, on ne permet pas aux personnes, on n'accepte pas, en tout cas, on rejette personne, mais on ne peut pas approuver quelqu'un qui dit « Moi, je veux servir, je veux bien servir dans tel domaine. » Et vous êtes baptisé ? Non. Eh bien, excusez-nous. Le mieux pour vous, c'est que vous commenciez par le début. Faites-vous baptiser. Engagez-vous publiquement. Engagez-vous publiquement. Le Seigneur dit « Si tu m'aimes, pourquoi tu t'engages pas avec moi ?» Peut-être que quelqu'un a vu ses parents divorcer. Peut-être que quelqu'un a vu des chrétiens rétrogradés, comme on le dit, avec un mot si ingrat. Peut-être que quelqu'un a été déçu par d'autres exemples. Et dit, moi j'ai peur de m'engager parce que j'ai vu tant de personnes renoncer à leur engagement. J'aimerais vous rappeler que s'ils ont renoncé, c'est parce qu'ils ont aussi renoncé à l'intimité qu'ils devaient avoir avec Dieu. Parce que la parole dit, dans le livre des Ecclésiastes ou du Cantique de Cantique, je ne sais plus, il dit que celui qui médite la parole, Dieu ne l'abandonnera pas. Et au moment du combat, de la tentation, etc., Dieu ne permettra pas qu'il tombe. Dieu va le secourir. Celui qui se nourrit auprès de Dieu, celui qui demande le secours à Dieu, qui a une intimité avec lui, Dieu ne l'abandonnera pas et ne permettra pas que son pied chancelle. C'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui veut et que Dieu n'aide pas pour pouvoir. Alors, reprenez courage et dites-vous que c'est votre vie. Ne regardez pas aux autres. Regardez à vous-même et à ce que Dieu vous demande. Regardez au Seigneur, à ce qu'il attend de vous. Parce que quand on obéit à Dieu, Dieu approuve notre vie. Il nous utilise pour des choses bénies, des choses difficiles parfois. Il nous fait passer par des épreuves parce qu'on en a besoin, malheureusement, pour apprendre certaines leçons. Mais le Seigneur, il fera toujours tout ce qu'il faut pour nous sortir de toute situation difficile et pour nous faire reprendre la route, pour nous mener jusqu'au ciel et nous emmener au paradis avec lui. Si nous, on ne l'abandonne pas et on ne renonce pas à nos engagements. Voilà ce que c'est que le baptême. Un engagement avec le Seigneur. Un engagement comme un mariage qui ne doit pas être rompu. Et je ferai le point, on peut peut-être incliner nos cœurs, nos fronts, et se poser la question, pendant qu'un dernier chant sera peut-être pris, préparé par notre frère, si tu veux bien penser à un chant, s'il te plaît. Je ne ferai pas d'appel à venir devant, à lever sa main, etc. Je crois que Dieu lit dans les cœurs, et cela suffira. Est-ce qu'on peut se poser cette question, prendre quelques minutes, pas longtemps, je ne veux pas être long, mais un peu de temps, donner un peu de temps au Seigneur pour qu'il puisse sonder nos cœurs, faire remonter peut-être quelque chose. Et qu'on pose cette question, est-ce que mon engagement tient toujours? Est-ce que je n'ai pas renoncé à cet engagement? Est-ce que dans mon baptême, j'accepte toujours publiquement de confesser le nom de Jésus? Est-ce que j'accepte d'être un témoin? Est-ce que je suis toujours engagé à avoir une intimité avec le Seigneur? Est-ce que mon engagement est tenu? Est-ce que j'accomplis mes promesses envers Dieu? Peut-être quelqu'un dira, oui, j'ose pas me faire baptiser. Peut-être je vous inviterai à vous poser les bonnes questions. Pourquoi je me suis pas encore engagé alors que c'est ce que Jésus me demande et ce qu'il approuvera dans ma vie? Peut-être quelqu'un d'autre aura entendu parler du couple, réalisera que dans son couple, il y a eu un engagement, il y a eu un mariage un jour, mais que la situation, la relation s'est dégradée. Et j'aimerais vous dire à vous aussi que le Seigneur, il est toujours tout prêt à restaurer tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été brisé, cassé ou négligé. Et qu'il suffit de se tourner vers lui, tourner nos regards vers le Seigneur. Il suffit de confesser, comme au début, nos péchés, nos erreurs, de demander pardon, de renoncer à ces choses, de vouloir compter sur lui pour changer. Et le Seigneur nous fait la grâce de repartir à zéro avec lui. Peut-être un couple est détruit, le Seigneur peut le reconstruire. Peut-être un foyer est en situation de couler, de se perdre, le Seigneur peut remettre la paix dans un couple, dans un foyer. Que chacun puisse éprouver soi-même, peut-être laisser le Seigneur nous parler dans nos cœurs. Et qu'on fasse le point et qu'on puisse tous repartir en disant « Oui, je me suis engagé, mon engagement tient bon. » Ou peut-être je décide de m'engager enfin. Peut-être quelqu'un a été baptisé bébé. Ce que le Seigneur vous demande, ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une date. Ce n'est pas une cérémonie, c'est un engagement véritable. Comprenez que Dieu attend que vous puissiez vous engager avec lui. Amen.